France Musique.
Bonjour Nicolas Lafitte, bon week-end à vous et à lundi matin, bon pied, bon œil.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Il y a du café?
Ouais, petit café. J'arrive.
Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin encore, grâce à Fabrication Maison, dans les coulisses de la musique à la Maison de la Radio. Ce matin, dans le portrait, vous rencontrerez Carole Beffa, lauréate du Grand Prix lycéen des compositeurs. Dans son reportage, Hugo Brisset est allé repasser le bac option musique grâce aux émissions de France Musique. La chronique de Marie Fauché frôlera l'immoralité, mais en musique bien sûr. Enfin, heureusement, à 8h30, nous retrouverons les fabuleuses archives de Jean-Yves Pat et à 8h45, la lettre de l'un d'entre vous dans Parlez-moi de musique. On y va, c'est parti.
France Musique.
Alors, jeudi 17 mars dernier, plus de 1000 lycéens étaient réunis dans le bel auditorium de la Maison de la Radio pour rencontrer des compositeurs d'aujourd'hui et élire celui qui était le compositeur selon leur cœur. C'était donc le Grand Prix lycéen des compositeurs et le vainqueur, eh bien, c'était vous, Carole Beffa. Bonjour.
Bonjour, Dominique Boutel.
Alors, c'est un moment d'émotion? Non.
Oui, c'est un vrai moment d'émotion. En plus, c'est pas parce que l'applaudimètre des lycéens est plus nerveux, plus tendu que celui d'un autre public, mais on sent leur présence très clairement quand on est dans l'auditorium et qu'ils sont tout autour de vous.
Alors c'est l'occasion, Carole Beffa, de vous rencontrer de façon plus proche, peut-être à travers un choix musical que vous avez fait. Et on commence tout de suite par une musique qui, semble-t-il, vous est chère. C'est la musique de Steve Reich. La musique de la quatrième section de Music for 18 Musicians de Steve Reich. Je trouve que c'est vraiment une musique qui nous plonge, je trouve, tout de suite dans l'époque dans laquelle on vit, n'est-ce pas, Carole Beffa?
Oui, je suis
d'accord. On est en Occident et dans le monde moderne.
Oui, on est en Occident, même si c'est un compositeur qui a étudié au Ghana pendant 6 mois parce qu'il s'intéressait à la percussion et une partie de la musique africaine. Même si c'est un compositeur qui a influencé autant les musiques actuelles qu'il en a été influencé. On sent vraiment l'influence du rock, et puis c'est un compositeur qui a beaucoup eu d'influence sur soit des musiciens de rock, soit des musiciens de techno. C'est une musique hypnotique, on sent bien, c'est une espèce de
trans,
musique de trance, et je trouve qu'il y a comme une espèce de bain moussant sonore en écoutant cette musique. Alors certains, ils sont totalement réfractaires, moi je veux dire que j'ai une musique que j'adore.
Que vous connaissez depuis longtemps.
Et que je connais depuis assez longtemps. Bon, ça c'est une pièce qui date de la fin des années 70. Raj, j'ai dû le découvrir à la fin des années 80. Et c'est un compositeur que j'ai tout de suite aimé. C'est un compositeur dont on reconnaît la moindre mesure dès l'audition. Et qui a une identité stylistique extrêmement forte. Et qui pourtant arrive depuis à peu près 50 ans à se renouveler avec beaucoup beaucoup de succès, je trouve.
Quelqu'un comme Steve Reich peut vous avoir influencé, Carole Beffa? Je dirais pas ça, moi, à l'écoute de votre musique, que je connais un petit peu, pas beaucoup.
peut-être un peu moins que l'autre compositeur américain, lui-même influencé par Reich, qu'on va entendre par la suite, qui est John Adams. Je crois qu'il y a quand même un certain goût pour des consonances et puis pour un rythme harmonique très lent, comme ça. Musique un peu planante, musique de clouds, que je pourrais...
De nuages,
par opposition à une musique de clocks qui serait au contraire beaucoup plus du côté du rythmique, même si paradoxalement on est un peu entre les deux, parce que on a à la fois un sentiment de pulsation très fort, la première section, si je ne m'abuse, s'appelle d'ailleurs pulse, c'est-à-dire pulsation, mais que selon cette hypnose très particulière, on a beau être dans une musique hyper pulsée, hyper rythmique, c'est pourtant un sentiment extrêmement contemplatif qui domine. Et ça, c'est vraiment magique. C'est-à-dire d'arriver à avoir à la fois quelque chose d'incroyablement saccadé et d'incroyablement lisse. Les deux, je trouve, se marient d'une façon absolument incroyable.
Alors, on fait le contraste tout de suite en écoutant la musique de John Adams. Vous avez choisi Tromba Lontana. Nous écoutions donc Tromba Lontana de John Adams dans l'interprétation de l'Orchestre Symphonique de la ville de Birmingham que dirige Simon Rattle. C'est votre deuxième choix, Carole Beffa. Je parlais de contraste tout à l'heure, finalement je me trompais. Il n'y a pas tant de contraste que ça, il y a quand même toujours une espèce de temps comme ça qui s'étire.
Temps suspendu, une certaine mélancolie aussi peut-être. Cette pièce fait partie d'un diptyque qui s'appelle Deux fanfares pour orchestre, ou Fanfares for Orchestra. La deuxième, Short Ride in a Fast Machine, qu'on pourrait traduire par un
voyage court dans une machine rapide.
Voilà, ou d'un bolide. Eh bien, c'est une pièce incroyablement vitaminée, survitaminée, ce qui n'est pas du tout le cas de celle-ci, qui est beaucoup plus contemplative. Et il y a cette tentation de la part d'Adams de faire un contraste assez fort. Par la suite, d'ailleurs, il va aller encore un peu plus loin dans le sens du contraste, en ayant souvent des triptyques avec vif, lent, vif, ou éventuellement, mais beaucoup plus rarement, lent, vif, lent. Ce que j'aime dans cette musique, chez un compositeur qui en général est incroyablement optimiste, c'est au contraire son côté légèrement sombre. C'est un peu ce qui se passe dans certaines pièces de Ravel. Ravel, un compositeur que Adams adore. À peu près aux deux tiers du morceau, vous avez une espèce d'ombre qui se met en place. Quelque chose qui parfois peut être très fugitif, mais qui d'une certaine façon va apporter à la musique que vous entendez un côté un peu crépusculaire. Et je trouve que ça fait quelque chose d'assez incroyable. Alors, si Reich est un compositeur qui a un peu écrit pour orchestre, c'est plutôt un compositeur qui se sent à l'aise dans les petites formations avec en général des instruments particulièrement bons pour tout ce qui est dynamique, donc clavier, petit bois, flûte, clarinette éventuellement, percussion bien sûr. Adams, lui, c'est vraiment le génie absolu de l'orchestre, avec un son orchestral qu'on reconnaît parfois au bout de quelques secondes seulement. Et voilà, je trouve que c'est un des très grands orchestrateurs de la musique de notre temps. C'est pour ça que je pensais que c'était important d'en faire écouter un extrait.
Ce grand prix lycéen des compositeurs, Carole Beffa, va vous donner peut-être la possibilité de travailler pour orchestre. Donc l'orchestre est encore un instrument fascinant pour les compositeurs du 21e siècle.
Oui, je pense que ça fait partie effectivement des instruments fascinants. C'est vrai qu'il y a quelques décennies, on avait décrété que l'orchestre était mort, mais on a aussi décrété que l'opéra était mort.
Raté,
parce que la plupart des compositeurs jeunes ou moins jeunes que je connais ont envie d'écrire pour orchestre, ont envie d'écrire des opéras. Je pense qu'il y a d'abord une fascination, non pas pour le small is beautiful, mais au contraire pour le big is beautiful.
C'est-à-dire qui est que, grand et beau.
Voilà, plus c'est grand, plus on pense qu'on va pouvoir magnifier des sonorités. Donc ça fait partie probablement d'une des raisons de l'attrait de l'orchestre. Et puis tout simplement parce que j'ai le sentiment, mais je sais qu'il n'est pas partagé par tout le monde, que toute pièce qui a un certain intérêt va avoir un intérêt peut-être encore décuplé si cette pièce est portée pour une formation plus importante. Autrement dit, chaque fois que vous orchestrez, si vous êtes un bon orchestrateur, vous ne perdez pas en qualité. Je dirais pas forcément la même chose d'une réduction. Quand vous réduisez, parfois malheureusement, vous perdez un tout petit peu en qualité. Mais là, dans le cas de la musique d'Adams, je trouve vraiment qu'on a affaire à un grand maître.
Alors on le disait, small is also beautiful, le petit est parfois magnifique, c'est le cas du quatuor, surtout un quatuor de Mendelssohn. Nous écoutons l'adagio du quatuor en fa mineur.
Thank you.
Magnifique Quatuor Eben, interprète de cet adagio du Quatuor en fa mineur de Mendelssohn. Là aussi, il y a un temps.
Oui.
Il y a un temps qui s'étire.
Tout
c'est
à
pas
fait.
Le même temps.
Et c'est pas le même temps. C'est curieux d'ailleurs que les deux pièces que j'ai choisies de ces compositeurs qui me sont chers, John Adams et Mendelssohn, sont d'une certaine façon pas très représentatives. Dans les limites du raisonnable, mais d'une certaine façon, ces deux compositeurs qui peuvent être incroyablement optimistes, si l'optimisme est une valeur qu'on peut juger en musique, ce qui ne va pas forcément de soi.
Oh, il y a des musiques légères, disons, joyeuses.
Oui, alors ici, c'est pas forcément qu'elles soient légères, mais vous avez raison, plutôt joyeuses. Il y a comme ça cet optimisme qu'on peut avoir, alors que dans les deux que j'ai choisis, c'est plutôt une musique dépressive, dans des couleurs assez
c'est
sombres.
C'est le matin, Carole.
Et je pense que c'est ça qui joue, exactement. Mais ce que j'aime chez Mendelssohn, c'est un compositeur qui n'a pas tellement cherché à être neuf pour être neuf, mais qui a une telle personnalité que dans la moindre petite tournure, on arrive à distinguer ce qui fait de lui un génie, au même titre que certains de ses contemporains qui s'appellent Chopin, qu'il appréciait beaucoup, Schumann, qu'il appréciait énormément. Donc c'est un compositeur qui en réalité a une personnalité assez forte, même si ce n'est pas la première chose que l'on entend quand on écoute sa musique. Et puis là, il y a un certain climat en demi-teinte que je trouve très précieux. Parfois, on va avoir des petites incursions du côté de la modalité. Enfin, c'est une musique vraiment du crépuscule et je trouve ça très touchant, très poignant.
Quand on est compositeur, Carole Beffa, on est une sorte d'immense bibliothèque de musique, non ? Est-ce qu'on va piocher dans sa mémoire ? Est-ce qu'on...
Je ne me l'interdis pas, ça peut m'arriver. Alors, rarement dans la mémoire de compositeurs du 19e siècle, bizarrement, ça va être soit des compositeurs assez proches, 21e, 20e siècle, soit beaucoup plus éloignés. Mais il faut croire que le 19e siècle, en fait, parce que c'est vraiment l'époque de la tonalité fonctionnelle, pour laquelle à peu près à chaque moment on peut dire, voilà, on est en si mineur, on est en ré bémol majeur, etc. C'est un siècle pour lequel les influences sont peut-être moins perceptives dans la musique d'aujourd'hui. Il peut m'arriver parfois dans des musiques assez simples, que j'essaye de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop simplistes, d'aller piocher beaucoup plus loin du côté de certains compositeurs de la Renaissance, voire de la fin du Moyen-Âge. Mais bizarrement, le romantisme, qui est un courant que j'adore en musique, n'est peut-être pas celui qui m'inspire le plus.
Alors on va écouter un petit peu votre musique, Carole Beffa, et on va commencer par le disque d'ailleurs qui était en lice, pas l'œuvre, mais le disque qui était en lice pour ce Grand Prix lycéen des compositeurs. Il s'intitule Into the Dark, et vous avez choisi de nous faire entendre un extrait de votre concerto pour harpe. Thank you. Nous écoutions le début de votre concerto pour harpe, Carole Beffa. L'interprète, c'est Emmanuel Cesson qui est soliste dans cette interprétation et cet enregistrement avec l'ensemble Contraste, Johan Fargeau. Ce sont des amis, des longues collaborations. C'est important pour un compositeur, finalement, d'être en lien avec les interprètes. Ce sont souvent eux, d'ailleurs, qui vous sollicitent.
C'est souvent eux qui me sollicitent. Ce sont aussi eux avec qui je peux avoir des discussions infinies de 2-3 heures sur des points techniques d'instruments. Et c'est très précieux. Je commence à connaître l'orchestration pour avoir lu des traités, pour l'avoir enseigné maintenant depuis une quinzaine d'années. Mais rien ne remplacera le rapport direct avec les interprètes qui vous expliquent parfois extrêmement en détail, très minutieusement, comment faire les différentes choses. Là, en l'occurrence, Emmanuel Cesson m'a fait de véritables suggestions d'une écriture harpistique, parce que je pensais que c'était important d'écrire vraiment pour l'instrument, qui a un certain confort de l'instrumentiste et de l'interprète. Voilà, donc je lui suis reconnaissant, mais c'est une chose que je fais aussi avec les autres interprètes qui figurent sur ce CD. Le chef Johan Fargeau, celui qui est à la fois au premier violon et à l'alto pour la pièce récompensée qui est ce concerto pour alto, Arnaud Thorette. C'est vraiment important d'avoir ces rapports-là. C'est le cas aussi avec Geneviève Laurenceau que je connais très bien et qui me donne souvent des coups de main quand j'ai des questions.
Alors on va terminer avec un autre extrait de ce disque Into the Dark. Je rappelle donc que vous avez été lauréat de ce Grand Prix lycéen des compositeurs 2016, ce qui veut dire que vous avez une commande qui vous est passée. Donc il va falloir vous y mettre.
Voilà, c'est pour dans 12 mois.
12 mois, c'est facile. Enfin, je me souviens qu'un des jeunes lycéens posait la question, disait combien de temps il vous faut pour écrire une partition. Et j'aimais bien ces questions, elles étaient vraiment intéressantes.
Mais c'est la question de la productivité des compositeurs, elle est essentielle. 12 mois, ça laisse un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on veut faire. Et puis, ça n'est pas non plus un horizon trop lointain, ce qui fait qu'on sait qu'il faut se mettre au travail. C'est, je pense, le bon délai.
Quand on pense à ces Haydn, à ces Bach, qui étaient obligés de fournir de façon extrêmement régulière, vous imaginez une vie comme celle-là ?
Non, enfin, peut-être pendant un an, mais il y a de quoi devenir fou, hein, c'est sûr.
La dernière pièce, Dédale, dites-en-nous un mot, Carole Beffa.
Alors, Dédale, c'est la pièce la plus ancienne qui figure sur cet enregistrement de Into the Dark, puisqu'elle date du siècle dernier, c'est 1999.
C'est vrai que vous êtes un vieillard, Bepdo.
Une des pièces les plus anciennes dans lesquelles je me reconnaisse, effectivement. D'autres ont été écrites encore avant, telles qu'elles réutilisées ou réexploitées dans des œuvres ultérieures. Ça, c'est une pièce pour orchestre à cordes avec une harpe ad libitum, à nouveau Emmanuel Cesson à la harpe, où j'ai voulu imaginer une espèce de labyrinthe de sensations. On a comme un thème qui parcourt toute la pièce et qui va se décliner assez lentement. Du début jusqu'à la fin, c'est une pièce d'une douzaine de minutes dont on entend un extrait.
Une atmosphère assez crépusculaire encore.
Et encore une fois, l'album Into the Dark valait son titre à ces climats très sombres qui baignent la plupart des pièces.
Thank you. sur ces quelques notes de harpe et un petit peu de violon, de corde. On se quitte, Karl Beffa, avec un extrait de Dédale, donc qui se trouve également dans votre disque Into the Dark. Alors on est très impatients, on attend cette pièce, vous avez un an pour l'écrire, donc on se retrouvera certainement l'année prochaine pour parler de cette création.
Et très volontiers.
Au Grand Prix du compositeur, et je crois qu'entre temps vous avez pas mal de travail.
Oui, il y a des choses à écrire, donc ça tombe bien.
Ça tombe bien. Je rappelle également aux auditeurs qui le souhaitent, les lycéens en particulier, que s'ils veulent réécouter ce débat, ou en tout cas le découvrir, vous pouvez toujours le trouver sur le site de francemusique.fr. Merci Karl Beffa, et à bientôt.
Merci Dominique Boutel.
C'est le violoniste Svetlin Roussev que nous écoutions dans le premier mouvement de cette sonate en la majeure de César Franck avec Elena Rozanova au piano. Svetlin qui sera l'un des solistes avec le violoncelliste Éric Levieunois du concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France vendredi prochain dont il est le premier violon solo dans le triple concerto de Beethoven. Au programme également la symphonie numéro 1 de Mahler sous la baguette de Myung-Whun Chung qui retrouve son orchestre le temps d'un concert. À écouter en direct bien sûr sur France Musique. Bonjour Hugo Brisset.
Bonjour Dominique Boutel.
Hugo, France Musique aide les lycéens à passer le baccalauréat. Chaque année, la radio accompagne les candidats en option musique. Au programme, un dossier spécial sur le site francemusique.fr avec des fiches de révision, des biographies, des vidéos, mais aussi cette année, des émissions spéciales où des musiciens ou des spécialistes viennent donner des clés de compréhension aux candidats. Et vous, justement, vous avez assisté à deux de ces émissions au studio 106 de la Maison de la Radio aux côtés d'un public lycéen.
Oui, ils étaient nombreux, hein, les élèves venus assister à l'enregistrement dont ne peut pas tout savoir, un programme d'Arnaud Merlin, parce que la double émission avait pour thème le compositeur Jean-Philippe Rameau, compositeur au programme de l'option musique cette année au baccalauréat. Alors, petite séance de révision pour cette double émission qui sera diffusée les 9 et 16 avril sur France Musique. Arnaud Merlin a été accompagné de Vincent Varnier, professeur d'éducation musicale au lycée Racine, et du claveciniste et pianiste Jean Rondeau. Et tout ce petit monde s'est organisé avant l'enregistrement pour rendre leur cours radiophonique le plus efficace et vivant possible pour les lycéens.
La poule. Donc la poule, c'est du live.
Ensuite... On en parle avant de la poule.
Oui, bien sûr.
Tu expliques en
oui.
Tu expliques pour la poule, je pense, ouais.
Des explications, ouais. Puis le jeu en intégral. La poule de Jean-Philippe Rameau, jouée par Jean Rondeau ici au studio 106. Arnaud Merlin, producteur à France Musique.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'objectif de l'émission qui va être enregistrée aujourd'hui devant un public lycéen ?
Alors, ce qui est très sympa aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a un public qui est tout à fait dédié à l'émission, puisque ce sont des émissions qui traitent des œuvres qui sont données à l'option musique du baccalauréat. Donc oui, l'idée c'est de à la fois de préparer l'option musique, mais aussi de donner des exemples un petit peu hors champ, d'ouvrir des perspectives d'interprétation. Et on a la chance pour ça de recevoir aujourd'hui Jean Rondeau, qui est un musicien formidable. En plus, il a seulement quelques années de plus que les lycéens. Et avec Vincent Varnier, qui est à la fois très bon musicien, formidable organiste, et en même temps professeur agrégé lui-même. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors le thème de l'émission d'aujourd'hui se décline en deux temps, puisqu'en fait on va enregistrer deux émissions. C'est de la musique pour clavecin de Jean-Philippe Rameau. Dans la première émission, on sera plus sur le contenu, les styles, les genres, les danses, vraiment le contenu des livres de clavecin, de pièces de clavecin de Rameau. Et dans la deuxième émission, on sera plus sur la postérité et sur l'interprétation Rameau au piano, par exemple. Est-ce que c'est pertinent? Comment ça se fait? Ça existait dans les années 50, ça existe de nouveau aujourd'hui avec des interprètes comme Alexandre Tarot. Qu'est-ce que ça pose comme question de jouer Rameau sur un autre instrument? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est complètement idiot? On va poser toutes ces questions.
Donc le but de ces émissions, c'est vraiment de s'attaquer au programme et puis de donner des clés de compréhension aux élèves.
Bah, c'est de partir, comme le fait toujours, je l'espère, France Musique, c'est de partir de choses qu'on connaît et d'essayer de proposer au public et donc aussi aux auditeurs ce qu'ils pourraient aimer et pas seulement ce qu'ils connaissent déjà. Donc d'ouvrir les oreilles.
On peut penser que France Musique, c'est pas forcément une radio qui est beaucoup écoutée par les lycéens.
Ça, c'est une vraie question, parce que c'est vrai que les radios de Radio France en général ont un public plus vieux que la moyenne d'écoute des radios en France. Peut-être parce que c'est une image un peu plus sérieuse que les autres. C'est à nous de les y amener aussi, en faisant des programmes peut-être un peu plus ludiques, un peu plus festifs, et d'essayer d'avoir un ton, sans être démagogique, mais un ton un petit peu plus libre, un petit peu plus simple, un petit peu plus moderne, tout simplement. Et je pense que la nouvelle génération des producteurs de France Musique s'y attelle déjà depuis quelques années.
Et l'avantage pour cette émission, c'est que vous êtes accompagné d'un professeur, donc voilà, qui a l'habitude de parler à des élèves, je suppose, et puis aussi quelqu'un qui va faire des démonstrations au piano, qui va pouvoir, et au clavecin.
Moi, je crois beaucoup à l'exemplarité. Hein. C'est quelque chose qui... on peut faire des longues phrases, on peut écrire des milliers d'articles, on peut écrire des choses tout à fait scientifiques, tout à fait passionnantes, mais qui vont s'adresser à des publics très restreints. En revanche, je pense que tout est compréhensible par le plus grand nombre, par le plus grand public, à condition que l'on se donne les moyens et qu'on ait les outils pour ça. Et quand on explique un terme musical en faisant entendre des exemples sur un piano ou sur un clavecin, tout de suite c'est lumineux. Même n'importe qui peut comprendre des choses relativement complexes, mais à condition de donner les bons exemples.
Le mot-clé, c'est vraiment ludique, en fait.
Voilà, ludique et pédagogique. Il ne faut pas avoir peur de la pédagogie. Moi, je crois qu'on est une radio qui doit s'assumer en tant que telle, de service public, qui fait de la programmation musicale, bien sûr, mais qui doit aussi donner à apprendre, donner à entendre des choses qu'on n'entend pas ailleurs. C'est aussi notre mission.
Alors Vincent Varnier, je suis organiste à Saint-Étienne-du-Mont à Paris et également professeur au lycée Racine, qui est un lycée qui offre une scolarité en horaire aménagé aux élèves musiciens de l'Académie de Paris.
Vous-même, comme vous êtes professeur, vous avez l'expérience justement du dialogue avec l'élève, vous savez quels mots utiliser un peu pour faire passer ce programme ?
Bien sûr, parce qu'il y a des attendus. Hein, on demande à ces élèves une bonne connaissance technique et historique des œuvres concernées. Ils ont une démarche analytique à avoir, une démarche culturelle aussi assez transversale, qui ne convoque pas seulement l'art musical, mais aussi l'histoire des arts en général. On cherche aussi à développer les capacités d'écoute de l'élève, sa réactivité. Certaines des épreuves de musique au baccalauréat sont plutôt basées sur l'écoute. D'autres, pour l'enseignement spécialisé, sont à base d'écrit, ou les deux. Donc, vous voyez, ça demande un peu des élèves polyvalents, mais ils s'accrochent et ils sont souvent très musiciens et très intéressés par le programme.
Et les émissions spéciales Bac Musique comme celle-ci peuvent vraiment être une aide dans le travail de l'élève qui prépare le baccalauréat ?
Oui, bien sûr, parce qu'elles donnent des perspectives d'écoute. Nous ne nous contentons pas de parler spécifiquement des œuvres du programme, mais de les remettre dans un contexte, de proposer d'autres écoutes commentées qui viendront enrichir leur culture personnelle, leur démarche aussi par rapport aux révisions, et puis aussi la musique vivante. Là, nous avons enregistré donc deux émissions avec le formidable jeune claveciniste Jean Rondeau, qui vient juste de sortir un album consacré à Rameau, entre autres, et qui se trouve être au programme. Donc ça, c'est formidable, c'est une chance extraordinaire pour les élèves que de pouvoir assister à l'enregistrement d'une émission, et puis surtout de partager cette musique vivante avec un artiste finalement pas très éloigné de leur génération.
Voilà, on a la demi qui va se transformer en une septième avec fa à la basse. C'est-à-dire que si je prends trop de temps pour arriver sur le fa, on va plus entendre la septième. Donc du coup, on va perdre la tension harmonique, celle-ci qui va se résoudre sur ré. C'est-à-dire, je pourrais très bien faire, puisque j'ai la liberté rythmique. Sauf que là, notamment au clavecin, on n'entend déjà plus le mi qui est au soprano. C'est vrai qu'il n'y a pas de barre de mesure, mais parfois le sens harmonique de certains passages me donne des indications de gestes et de voilà pour avancer, pour prendre plus le temps, moins le temps. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Il faut aller un peu vite pour entendre la septième. Par exemple, là, on a un ré qui est tenu pendant longtemps avec une ligne de basse qui est celle-ci. Et le ré, il tient depuis longtemps. Et là, on va avoir cet accord, une dominante sur médiante, qui est vraiment intéressant. Donc pareil, ça va me donner une indication pour pouvoir avancer à ce moment-là. aujourd'hui, on a enregistré des émissions pour le baccalauréat, qui vise un public de lycéens qui passe le bac cette année en option musique. L'émission était publique, c'était intéressant de pouvoir interagir avec, en plus des élèves qui avaient visiblement bien potassé le sujet. Donc, et voilà, du coup, c'était aussi une interaction avec l'instrument, avec la parole, qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours facile à faire, mais c'est intéressant, ouais, le côté pédagogique dans tout ça. Moi, c'est vrai que le moment où je travaille ou le moment où je joue, il ne va pas forcément y avoir de mots. Et puis après, je peux essayer de parler du travail, du rapport avec les compositeurs, etc. Le fait de faire les deux en même temps, c'est pas forcément facile.
Le jeune claveciniste et pianiste Jean Rondeau, qui m'a confié pendant ce reportage se souvenir encore de son passage à l'épreuve de musique au baccalauréat, ça l'a marqué. On l'écoutait il y a quelques instants interpréter la gavotte de la suite en la mineure du premier livre de pièces de clavecin de Jean-Philippe Rameau. Auparavant, vous avez pu entendre le rappel des oiseaux par Georges Xifra. Et nous allons maintenant écouter des extraits de la grande partita de Mozart, jouée par les membres de l'orchestre philharmonique de Radio France. La grande partita œuvre au programme cette année de l'épreuve musicale du baccalauréat, un programme qu'enseigne Vincent Varnier, professeur d'éducation musicale au lycée Racine.
Le programme est très très chargé, hein. Pour l'option facultative, il y a trois grandes œuvres à travailler, ou groupes d'œuvres, hein, très différentes. Hein. On est autour du jazz et l'Orient, avec des musiques du XXe siècle et du XXIe siècle, hein, bien sûr, avec la problématique du jazz, qui est tout à fait particulière. Nous avons des œuvres de Mozart, hein. Il y a eu un concert avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, que j'ai commenté aussi en présence des musiciens et en public, qui sera diffusé sur les ondes de la chaîne. Il y a également donc Rameau. Pour l'enseignement de la spécialité musique, ça c'est pour le bac L, c'est un peu plus lourd. Il y a quatre grandes problématiques avec quatre groupes d'œuvres, y compris Mozart, y compris Rameau, des opéras minutes de Germaine Taillefer, donc des œuvres rares, un ensemble d'œuvres de Richard Galliano, ça nous l'avions traité l'année dernière avec Renaud Machard. Donc voyez-vous, ça donne une grande ouverture sur tous les styles finalement. Et puis quelque part, ça s'adresse aussi aux profils très différents des élèves. Donc finalement, il y en a pour tous les goûts. Alors pour l'enseignant, c'est difficile parce que ça demande de la préparation. Et puis moi qui étant plutôt de formation classique, quelque part moi aussi j'apprends et je repasse mon bac.
Susanna Kubik, chargée d'édition au pôle web de France Musique.
D'accord, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment le site de France Musique va pouvoir aider donc, les personnes qui préparent l'option musique pour le baccalauréat cette année?
Déjà, il faut expliquer qu'il y a deux publics qu'on essaie de toucher. D'une part, les élèves qui passent l'option facultative, qui est une option qui est moins exigeante. Et de l'autre part, les élèves qui passent l'option lourde, l'option de spécialité, qui sont très souvent les élèves musiciens et qui ont une connaissance déjà de la matière. Donc on essaie à la fois de réfléchir au contenu plus facile d'accès, un peu léger, attractif, multimédia. Et puis on essaie aussi en même temps de proposer des contenus un petit peu plus approfondis, sans forcément être lourd. Donc l'exercice, c'est effectivement de trouver un juste milieu assez synthétique. Et puis le côté multimédia du site nous permet de réfléchir effectivement à des modules qui peuvent attirer et expliquer en même temps donc le programme au bac.
<t'-> je m'appelle Alexis Perrault, j'ai 17 ans. Et donc je suis en terminale L au lycée Racine, option musique lourde et facultative. Cette émission de radio était très complémentaire par rapport au programme du bac, puisque en fait, le fait d'avoir un interprète vraiment devant nous pour nous jouer les œuvres du programme du bac et de nous les expliquer aussi sa manière de ressentir la musique qu'il joue. Et...
C'est assez pédagogique, assez ludique en fait. Comme,
C'est un peu les deux, oui, voilà. Donc en fait, finalement, si je calcule, on y a passé à peu près 3 heures. Et je trouve que c'est passé à une vitesse folle. Pour ma part, je pense pas avoir décroché une seule seconde.
Je m'appelle Alma Chomeil, je suis aussi en terminale au lycée Racine, j'ai 17 ans et je fais du piano.
D'accord, alors qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui pendant ces émissions spéciales ?
On avait vu beaucoup de choses parce qu'on a le même professeur que le présentateur Vincent Varnier. Mais ce qui est vrai, c'est que le fait d'avoir un claveciniste devant nous, ça fixe beaucoup de choses parce qu'on entend les œuvres, il refait des passages. Même s'il y avait pas mal d'exemples qu'on connaissait déjà parce qu'on les avait étudiés en cours, le fait de tout réentendre dans un même moment, ça fixe tout ça et c'est le meilleur moyen d'apprendre, je pense, en fait.
Cette épreuve, il y a une partie orale, une partie...
Ça dépend, il y a l'option lourde donc, qui est écrite, il y a une partie, un commentaire comparé, on a deux œuvres, une qui est au programme et une qui ne l'est pas. Et puis après, il y a une analyse de partition, et par contre, pour l'épreuve facultative, c'est un examen oral, et on a aussi un commentaire comparé, mais à l'oral, où on écoute une œuvre qui est au programme, donc ça peut être du Rameau, ça peut être du Mozart, et on compare avec une œuvre qu'on ne connaît pas, et le but c'est de dire ce qui diffère, le timbre, ce qui est pareil, ce qui se rapproche, ce qui...
Et qu'est-ce que vous pensez du programme cette année ?
Moi je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs, il y a beaucoup d'époques, il y a vraiment tous les styles, ça passe du jazz à Rameau, clavecin, Mozart, il y a les opéras pastiches de Germaine Taillefer qui sont au programme de la musique lourde, que je ne connaissais pas du tout, donc finalement ça nous fait explorer des univers musicaux qu'on ne connaissait pas forcément avant, quoi.
D'accord. Et vous étiez auditeur de France Musique avant de...
Oui. Oui, j'écoute France Musique, oui.
D'accord. Et vous saviez qu'il y avait un dossier web en fait qui compilait un peu voilà, tout ce qui était au programme pour l'option
Sans ça, je savais pas par contre.
D'accord. Vous allez y faire un tour ?
Oui, j'irai.
Amis lycéens, France Musique vous donne les clés pour réussir l'option musique du baccalauréat. Vous pouvez déjà retrouver sur le site de la radio un mode d'emploi de l'épreuve et tout un tas de fiches analytiques sur les compositeurs, les œuvres, mais aussi des quiz, des playlists. Alors pour cela, vous tapez dans votre barre de recherche « Passer le bac musique 2016 avec France Musique ». Alors sur le site, vous trouverez aussi des petits ateliers ludiques sous forme de vidéos, ainsi que l'ensemble des émissions spéciales enregistrées autour du bac musique. Des émissions qui n'ont pas encore été diffusées. La première le sera cet après-midi de 15h à 16h. Dans On ne peut pas tout savoir, Arnaud Merlin abordera Mozart et son Divertimento en ré majeur. Les semaines suivantes, l'émission évoquera Rameau, Taillefer, compositeurs qui sont donc au programme de l'épreuve de musique du bac. Du lundi 11 avril au vendredi 15 avril, Anne-Charlotte Raymond parlera également de Taillefer dans son émission Musicopolis et vous pourrez réécouter les 4 opéras bouffes du compositeur dans les nuits de France Musique. Et puis lundi prochain, Dominique, vous diffuserez dans votre émission le concert de l'après-midi,
exact.
Le concert pédagogique donné à l'auditorium de la Maison de la Radio par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'est Mozart au programme, hein. c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. Bon ben dis donc, Hugo Bresset, vous me semblez prêt pour repasser le bac musique là ?
Ah ben avec ce beau programme, ça va être sans problème.
Merci Hugo, à bientôt.
À bientôt.
La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Il est pas jaloux sans cause, mais il est pas cul du tout.
L'ensemble Clément Jeannequin interprétait « Je ne l'ose dire » de Pierre Serton.
« Je ne l'ose dire » pour ouvrir cette chronique dédiée à quelques musiques immorales, voire censurées en leur temps. Ici, c'est une histoire de mari trompé. Avec Pierre Serton, nous sommes au XVIe siècle, au moment de la réforme protestante, et ce type de chansons, il y en avait beaucoup, était très mal jugé. Même le grand humaniste Érasme dénonçait cela. Il écrivait « À des sujets empoisonnés viennent s'ajouter des paroles d'une telle obscénité par le moyen de métaphores et d'allégories que la honte en personne ne pourrait s'exprimer plus honteusement. » Et donc, il était devenu une tradition d'encourager les cantiques spirituels, chantés en famille par exemple. Dans les cantiques spirituels, on garde la mélodie de ces chansons connues de tous et on y associe un texte pieux. Et par exemple, le cantique « Quitte le monde en son train décevant » n'était autre à l'origine qu'une chanson de Roland de Lassus, dont le texte dit « Un jeune moine est sorti du couvent, a rencontré une nonnette au corps jante, se prend à lui demander s'elle voulait brimballer ou danser ». Le petit pas, l'ensemble Clément Jeannequin à nouveau. Et je vous propose maintenant d'écouter un court extrait d'un opéra de Schubert. Schubert qui, toute sa vie, était obsédé par l'écriture de l'opéra. Il s'y est essayé d'ailleurs pas moins de 19 fois. Il a laissé beaucoup de fragments et d'esquisses d'opéra au milieu de quelques-uns qui sont méconnus mais achevés. Sa dernière tentative, ce fut sur un livret de son ami Eduard von Bornfeld. Schubert s'était lancé avec enthousiasme dans la composition de l'opéra avant de connaître le verdict de la censure qui, bien sûr, le refusa.
Allons bon.
Alors, l'histoire, le comte de Gleichen épouse la fille d'un sultan pour échapper à la prison. Seulement voilà, de retour dans son pays, sa première épouse l'attend. Bref, une histoire étrange de polygamie.
Da wart du bis zum jüngsten Tag auf mich mit deinem Spiegel. Konrad, Konrad, spring, Junge, freu dich, lass die Rosse satteln. Heute noch geht's fort nach Haus. Die Wunde zwar noch brennt sie, aber hier brennt's heißer noch. Nicht länger trag ich's fern vom Haus. Die Nacht ist schön, uwanger Strom der Luft. Mach alles fertig, fort, fort!
Et sans transition, voici un extrait fameux du Zongspiel de Kurt Weill et Bertolt Brecht, grandeur et décadence de la ville de Ma Agonie. C'est la scène qui se déroule dans la maison close, la complainte des prostituées. Nous sommes en 1930, Berg est mort 5 ans plus tôt. On pense à Loulou, bien sûr, et peut-être plus encore à la boîte de Pandore de Wedekind.
To the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you. We must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama and must have must have whiskey, oh you know.
Et c'est Ute Lumper qui chantait cette Alabama Song signée Kurt Weill.
On reste dans le thème. Dans un quartier sombre d'une ville triste, une prostituée séduit un riche mandarin avant de l'envoyer à ses complices qui en veulent à son argent. Il tente de le tuer 3 fois de suite, mais rien n'y fait. Le mandarin semble immortel. Extrait du pantomime Le Mandarin Merveilleux de Bartok, interprété par Pierre Boulez et l'Orchestre Philharmonique de New York. La suite tirée de ce pantomime sera donnée jeudi 31 mars à l'Auditorium de la Maison de la Radio par l'Orchestre National de France avec Gustavo Rimeno à la baguette.
Et puis je vous signale également que Le Mandarin Merveilleux sera donné une deuxième fois le dimanche 3 avril à 16h avec également au programme Roméo et Juliette de Prokofiev. Un concert qui sera présenté sur scène par la chanteuse Juliette. On en reparlera dans l'émission. Merci Marie Fauché, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Dominique.
Agenda. Ce soir à 17h30, au studio 105, venez assister à l'enregistrement de Jazz sur le Vif. En première partie, vous découvrirez le quartet de la batteuse Anne Passeo avec Émile Parisien au saxophone, Tony Pellman au clavier et Léla Martial à la voix dans un programme intitulé « Circles ». En deuxième partie, le batteur Christophe Marguet et le contrebassiste Yves Rousseau seront en quintette pour Spirit Dance Quintet, avec Fabrice Martinez à la trompette, David Chevalier à la guitare et Bruno Ruder au piano. Mardi à 20h au studio 106, un autre enregistrement. Celui de l'émission Label Pop de Vincent Théval. Une session exceptionnelle avec deux des groupes français les plus originaux de l'époque, Stranded Horse et Arlette. Enfin, jeudi 24 mars, venez assister et participer à l'enregistrement de la tribune des critiques de disques qu'anime Jérémy Rousseau. Il y sera question de la Tosca de Giacomo Puccini. Fan d'opéra, on vous attend à la Maison de la Radio.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors c'est l'opéra qui vous intéresse ce matin.
Cette semaine, c'est l'opéra, oui, parce que l'opéra italien a été une sorte de phare pour toute l'Europe, à peu près à part égale avec l'opéra français. Et puis, après la disparition des grandes idoles, des grandes icônes, il y a une sorte de creux de la vague. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de bons chanteurs en Italie, mais il y a un autre phare extrêmement puissant qui s'est élevé à New York, en particulier au Metropolitan, et tous les grands artistes sont invités à se produire, et certains, ils font des saisons si longues que
qu'ils ne reviennent plus. Parce qu'il faut dire que les voyages sont un peu longs à l'époque, en
les
plus.
Les voyages sont un peu longs, et puis les payes ne sont pas les mêmes. Il faut bien dire les choses aussi.
D'accord.
Donc on va se trouver avec une sorte de tourmente pour les maisons d'opéra, et c'est particulièrement sensible en Italie. Alors, il reste quelques piliers, comme Nazareno de Angelis, qui a commencé sa carrière au tout début du XXe siècle, a été repéré en 1903, et qui, lui, va rester fidèle à la Scala de Milan et au Grand Théâtre italien. Donc, on commence par un des piliers de la Terre.
Thank you.
Ça, c'est de la voix, ce Nazario De Angelis.
C'est rien de le dire.
Hein. Vibrato.
Le vibrato est impeccable. C'est une des références des basses italiennes et même des basses mondiales. Il a eu le bon goût d'enregistrer beaucoup avant 1930. Les critiques ont trouvé qu'après 1930, sa voix s'affadit un petit peu. Et il arrête sa carrière, en fait, au début des années 40. Mais heureusement, nous avons de très, très beaux témoignages au disque.
Alors, il y en a d'autres, des musiciens.
Il y en a d'autres, et je vous parlais tout à l'heure de Tourmente et de cet échange qu'il y a entre les artistes de tous les continents, ce grand brassage de l'opéra. Eh bien, l'Italie aussi rentre dans la danse. Et elle invite Margaret Sheridan, qui est une magnifique voix de soprano d'origine irlandaise, qui est d'une beauté belle comme un cœur, comme on disait à l'époque, qui a une carrière très très courte, parce qu'elle n'a pas voulu laisser l'ombre d'un défaut apparaître sur sa voix, et qui réjouissait, qui mettait en transe la Scala de Milan. Et il faut quand même le faire, puisque c'est ni plus ni moins que le maestro Sabaino qui va l'accompagner. Donc je vous propose de la trouver.
Elle est en duo, là.
Elle est en duo avec Ida Mananieri, qui, elle, est un pur produit italien, une très belle voix aussi, sous la direction du maestro Sabaino, et nous sommes à la Scala de Milan, en 1930.
Thank you.
De très belles voix, Jean-Yves Pat.
De très belles voix, un équilibre magnifique. Donc Margaret Sheridan, d'origine irlandaise, et Ida Mananiri. Et là, on voit que les traditions, en fait, commencent à s'internationaliser. Il n'y a pas vraiment de différence.
Un genre italien.
Un genre, voilà. Toutes les frontières s'estompent. Et c'est ce qui rend un peu cet aspect tourmenté. Et
alors, ça, c'est un disque quoi, ça?
C'est un disque La Voix de son Maître.
Oh. Alors, oh,
vous l'avez bien reconnu, enfin, c'était La Voix de ses maîtresses. Donc, pour boucler la boucle, en quelque sorte, je vous invite à écouter Beniamino Gigli, formation italienne parfaite, et qui va devenir un artiste international, un de ceux qui seront invités par le maître de New York, et qui, il faut bien dire, ne reviendront jamais. Il se produira sporadiquement en Italie, à Rome, il ne se produira jamais en France, et il fera l'intégralité de sa carrière aux États-Unis, au Metropolitan de New York.
Alors, en l'entendant, Lucia de la mer
mort. On l'entend dans Lucia de la mer mort. C'est magnifique.
Di miei l'ultimo avanzo d'una stirpe infelice già raccogliete voi. Cessa dell'ira il breve poco sul nemico acciaro abbandonarmi vo. Per me la vita è orrendo peso, l'universo in eterno un deserto, per me senza luglia. Difatti tuttavia splende il castello, scarsa fu la notte al tripudio, ingrata donna, mentre io mi struggo in disperato pianto, tu ridi esulti accanto al felice consorte. Tu dalla gioia in seno, tu io della morte, io della morte.
Voilà, magnifique, oui. Beniamino Gigli, dans un orchestre sublimement conduit aussi par Giulio Setti, qui était un des plus grands chefs pour tout le répertoire italien au Metropolitan. Comme quoi, il n'y a pas que les chanteurs qui s'importent.
C'est un enregistrement de 1927.
Réalisé à New York pour les disques Gramophone, La Voix de son Maître.
Bien sûr. Mais merci enfin, Jean-Yves, à la semaine
à
prochaine.
À la semaine prochaine.
Et voici notre rubrique « Parlez-moi de musique » dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé Pascal Minette. Mon premier contact avec la musique classique fut de l'ordre de l'étrange. Chez moi, comme il n'y avait pas beaucoup de sous, il n'y avait pas beaucoup de disques. La musique, c'était surtout mon père qui savait son Vincent Scotto par cœur et qui pouvait aussi arracher quelques tubes musettes à son vieil accordéon diatonique. J'ai 9 ans quand ma grande sœur rapporte à la maison un grand disque sombre. « Écoute ça », me dit-elle, en me forçant à m'asseoir. C'était l'ouverture de Tannhauser. Au bout de 5 minutes, j'étais parti. Pas terrible ce Wagner, il ferait bien d'écouter « Perles de cristal ». Le lendemain, dans ma classe de CM2, M. Lehmüller, un maître formidable, nous jouait l'arrestation de Louis XVI à Varennes, un régal de pédagogie théâtrale. Pourtant, tout s'éteignit brusquement pour moi. Louis XVI, M. Lehmüller, la classe et le monde entier. Il n'y avait plus que le thème de Tannhauser, à peine écouté la veille, et qui, vexé, revenait gagner sa guerre contre moi. Aujourd'hui commence pour moi l'hiver de la vie. Demandez-moi donc quel disque j'emporte sur une île déserte. Si je dois choisir entre l'opéra et l'accordéon, je préfère partir sans disque du tout. Pour illustrer le souvenir musical de notre auditeur, Pascal Minette, nous avons écouté un pot-pourri de chansons de Vincent Scotto par le trio Corti à l'accordéon, puis l'ouverture du Tannhauser de Richard Wagner dans l'interprétation du Philharmonique de New York que dirigeait Pierre Boulez. Et vous alors, qu'emmèneriez-vous sur une île déserte? Je vous le rappelle, cette rubrique se nourrit de vos souvenirs, alors n'hésitez pas à prendre la plume et à nous raconter l'un de vos grands moments avec la musique. Je me ferai une joie de vous lire à l'antenne. Enfin, il y a des places de concert à gagner aujourd'hui encore pour le concert du dimanche 3 avril à 16h. Un concert destiné aux familles, tout à fait particulier et participatif, et présenté par la chanteuse Juliette. Des musiciens de l'Orchestre National de France, dirigé par Gustavo Gimeno, feront découvrir au public des extraits du Roméo et Juliette de Prokofiev et le fameux mandarin merveilleux de Bartok, qu'évoquait tout à l'heure Marie Fauché. Pour gagner des places pour ce concert, inscrivez-vous au plus vite sur le site de France Musique, à la page de Fabrication Maison. C'est la fin de notre émission, réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, de Déborah Dagobert et de José Bernays. À bientôt!